Bon réveil à tous, il est 5h.
Nous souhaitons absolument que l'individu soit interpellé, sain et sauf. Donc c'est quelque chose qui peut durer encore de nombreuses heures.
Patience et prudence pour mettre la main sur l'homme armé, retranché depuis dimanche matin dans une forêt de Dordogne. La vaccination, toujours plus vite. Nous verrons que la France a largement rattrapé son retard après des débuts plus que poussifs. Et puis Xavier Bertrand qui appelle à faire barrage au Rassemblement National pour le second tour d'une législative partielle. C'est donc un soutien indirect à la République. En marche.
À suivre les sports, notre pressing du matin, et puis nous serons dans l'aube chez l'un de nos agriculteurs pour les doigts dans l'assiette.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le temps et le nombre, meilleurs alliés des gendarmes. De très grands moyens sont déployés en Dordogne où la traque d'un suspect armé retranché dans les bois se poursuit. C'est sur la commune de Lardin-Saint-Lazare qu'un ex-militaire a pris la fuite après avoir tenté de tirer sur le compagnon de son ex-conjointe dans la nuit de samedi à dimanche. 300 gendarmes sont mobilisés sur le terrain, Marion Dubreuil.
Oui, un dispositif hors norme. 4 hélicoptères se relaient pour surveiller la zone. Les gendarmes sont face à un individu dangereux, déterminé, qui n'a pas hésité à ouvrir le feu à plusieurs reprises sur eux. Cet ancien militaire de 29 ans, habitué des terrains de guerre au Mali, à Djibouti, au Tchad, est retranché avec 2 armes dans une zone boisée, difficile d'accès. Pas question d'agir dans la précipitation pour le préfet de Dordogne, Frédéric Périssa.
Notre préoccupation, c'est d'éviter qu'il y ait des échanges de feu. Nous souhaitons absolument que l'individu soit interpellé, sain et sauf. Donc c'est quelque chose qui peut durer encore de nombreuses heures. L'objectif étant de nous inscrire dans la durée et dans la sécurité pour l'ensemble de cette opération.
L'ex-militaire refuse tout dialogue avec les gendarmes, déjà condamné à 4 reprises pour violence conjugale. Le suspect avait bénéficié d'un aménagement de peine sous bracelet électronique.
Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe.
C'est une étape majeure de la lutte contre la pandémie. À partir d'aujourd'hui, tous les plus de 18 ans peuvent se faire vacciner.
Oui, il n'y a plus de critères de sélection, plus besoin de justifier non plus une quelconque comorbidité pour prendre un rendez-vous. Victor Delande, après des débuts très timides, la France fait désormais partie des bons élèves parmi les pays qui vaccinent.
Oui, rappelez-vous les premiers jours du mois de janvier, les résidents d'EHPAD vaccinés au compte-gouttes, Morissette, la première, et quelques dizaines d'injections quotidiennes, une pluie de critiques, et puis au fil des mois, avec des réceptions de plus en plus importantes de vaccins, la France a progressivement rattrapé son retard sur les pays de tête. Avec 63% de sa population qui a reçu au moins une dose, Israël domine toujours ce classement, devant le Royaume-Uni, le Canada, le Chili et les États-Unis. La France arrive en fait dans un second wagon emmené par l'Allemagne qui compte 43% de sa population avec au moins une injection. Au coude à coude avec l'Italie, l'Espagne, le Portugal ou encore la Suède, la France tourne actuellement à 500 000 injections par jour en moyenne. Avec l'ouverture de la vaccination à tous les adultes depuis ce matin et l'arrivée des vaccins Moderna en pharmacie, le gouvernement compte bien tenir son objectif des 30 millions de primo-vaccinés au 15 juin.
Victor Delande, spécialiste santé d'Europe 1.
Vous l'avez vécu ce week-end et apprécié, j'espère, le soleil est enfin de retour assez généreusement, comme nous le disait Laurent Cabrol, sur l'ensemble du pays.
Et fort logiquement, les terrasses des restaurants font le plein. Alors même s'ils sont loin de tourner à plein régime, les professionnels poussent un ouf de soulagement et se projettent déjà sur la réouverture le 9 juin. Emmanuel Dutheil.
Le plus dur, c'est de réussir à servir tout le monde en un temps record. Voilà ce que l'on entend chez les restaurateurs. Avec une jauge à 50% et un couvre-feu à 21h, il ne faut pas perdre de temps car oui, il y a du monde, voire beaucoup de monde parfois, disent les syndicats de la profession. C'est ce que constate aussi Vincent Hervieux. Il est expert comptable, il travaille avec beaucoup de restaurateurs.
Ils ont fait effectivement une bonne reprise. La plupart me disent aussi qu'ils ont profité pour avoir des fois des cartes ou des offres beaucoup plus réduites, donc de façon à être un peu plus efficace, être plus simple au niveau de la cuisine et au niveau du service. Ça a permis de compenser l'activité.
France Boisson, qui alimente la plupart des restaurants, note aussi que cette reprise se passe bien. Les casinos, eux aussi, ont rouvert avec une jauge très limitée, avec seulement les machines à sous. Mais là aussi, selon Éric Cavillon, qui dirige les casinos du groupe Barrière, il y a du monde.
On a fait des chiffres qui sont légèrement supérieurs à 2019. J'espère qu'on fera un bon été, je le souhaite. Et les jeux ne sont pas encore faits.
Tout le monde attend maintenant avec impatience le 9 juin. Les casinos pourront proposer leurs tables de jeux et les restaurants pourront rouvrir en intérieur avec moins de contraintes.
Emmanuel Dutheil, le chef du service économie d'Europe 1.
La politique, 4 élections législatives partielles avaient lieu hier sur fond de forte abstention.
Oui, le scrutin scrutin le plus observé, c'est celui qui se tenait dans la 6e circonscription du Pas-de-Calais, où la ministre Brigitte Bourguignon remettait son siège en jeu. Elle est arrivée en tête au premier tour, 35% des voix. Elle affrontera au second tour la candidate du Rassemblement National, Marie-Christine Bourgeois, qui a obtenu 24%. Et si on en parle ce matin, c'est parce que la ministre a reçu un soutien implicite de Xavier Bertrand pour le second tour, Aurélie Herbemont.
Entre la Macronie et le Rassemblement national, pas d'hésitation pour Xavier Bertrand. La candidate LR ayant échoué à se qualifier, le président des Hauts-de-France appelle à faire barrage à l'extrême droite. S'il n'a pas écrit « Votez Brigitte Bourguignon » sur Twitter, c'est bien le sens de son message. Pas anodin alors qu'il affronte une liste avec pas moins de 5 ministres dans 3 semaines au régional et que son principal adversaire est Sébastien Chenu pour le RN. Xavier Bertrand, candidat à la présidentielle, avait pourtant tenté de prendre la tête des partisans du ni Macron ni Le Pen à droite après l'accord de premier tour entre Renaud Muselier et les marcheurs en PACA. Mais en cas de duel entre ces deux camps au second tour, il assume de préférer la majorité présidentielle, quitte à donner des arguments au RN qui fait déjà campagne contre les Républicains En Marche et à décevoir ses électeurs anti-Macron.
Aurélie Herbemont.
C'est aujourd'hui la journée mondiale sans tabac. Aujourd'hui en France, on estime que le tabac est à l'origine de 75 000 morts par an.
Oui, un quart des Français fument quotidiennement. Alors l'objectif des autorités sanitaires est d'atteindre une première génération sans tabac en 2030. Objectif réaffirmé par Emmanuel Macron en mars dernier lors de la présentation du dernier plan de lutte contre le cancer. Anne Le Gall, cet objectif est-il réaliste ?
Alors ce que l'on appelle une génération sans tabac, c'est une génération dans laquelle il y a moins de 5% de fumeurs. En France, l'âge de la première cigarette reste 14 ans en moyenne, mais le nombre de lycéens fumeurs a été divisé par 2 en 20 ans. Et pour le professeur Dotzenberg, tabacologue, une génération sans tabac en 2030 ou 2035, c'est un objectif réaliste.
Ah oui, j'y crois énormément. C'est des générations qui sont déjà obtenues aux États-Unis, où les lycéens sont moins de 5% de fumeurs quotidiens. Et les projections faites sur l'évolution des dernières années va tout à fait dans ce sens. On diminue en gros de 1% par an. Donc si on diminue encore 10 ans, on est bon là.
Et c'est vrai que depuis 10 ans, l'apparition du vapotage a contribué à ringardiser la cigarette aux yeux des adolescents. Pour autant, deux tendances pourraient freiner le recul du tabac chez les plus jeunes. C'est le recours au tabac chauffé ou à la chicha, car ces pratiques sont souvent perçues comme à moindre risque. Or, elles créent malgré tout de l'addiction.
Anne Le Gall.
Ouais, et le problème, c'est qu'au global, en tout cas, la consommation de tabac ne baisse plus. Hein. Le nombre de fumeurs est reparti à la hausse en 2020. Tendance liée potentiellement au confinement. On en reparlera tout à l'heure avec mon invité, le tabacologue, le professeur Dotzenberg, que vous avez entendu dans le reportage et qui sera mon invité tout à l'heure à 6h40. L'actualité culturelle avec une exposition, François, qui mêle l'histoire, la politique et la vie d'une famille, celle de Simone Veil.
Oui, le titre de cette expo qui ouvre à l'Hôtel de Ville de Paris, c'est une phrase de Jean d'Ormesson le 18 mars 2010, quand Simone Veil était reçue à l'Académie française.
Comme l'immense majorité des Français, nous vous aimons, madame.
Nous vous aimons, madame. Cette exposition présente des photos familiales, des documents inédits. Diane Chénouda a pu la visiter pour Europe 1. On entend aussi la voix de Simone Veil.
La plage de Nice de Galet. On avait souvent les mêmes romans.
Sur les joues de maman, mon emplacement préféré.
Les deux sœurs, les deux rescapées des camps, Simone et Denise, se remémorent leur enfance devant les photos de famille. Une enfance heureuse avant l'innommable. Olivier Rosenberg, l'un des commissaires de l'expo.
On commence par l'enfance, puis la traque à Nice pendant la guerre, évidemment la déportation. Et ensuite, on a tenu à dépasser le personnage intime pour mettre en avant la femme publique.
Là, on est frappé par la tristesse infinie de son regard sur une photo prise pour les 30 ans de la libération d'Auschwitz.
Elle représente le gouvernement. Elle est ministre à l'époque. Elle est devant les autres hommes. C'est la seule femme. Elle est seule, elle est perdue. Et on peut penser que dans ces moments difficiles, elle repensait non seulement aux 6 millions de Juifs, mais plus concrètement à sa mère, à son père, à son frère.
On découvre des documents exceptionnels, comme le manuscrit annoté en rouge de son discours pour l'IVG.
Les discours ont été retrouvés dans ces cartons d'archives, l'un dans l'appartement au moment de vider l'appartement et l'un aux archives nationales.
Archives qui mettent aussi en valeur son engagement en faveur des prisonniers en Algérie.
L'exposition est donc à l'Hôtel de Ville de Paris jusqu'au 21 août et c'est gratuit.
C'était le journal de François Geffrier sur Europe 1, il est 5h10. Bonjour Lénaïque Meunier.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Votre journal des sports et cette question, Mauricio Pochettino est-il sur le départ du PSG ?
Eh bien c'est vrai que la saison en demi-teinte du club parisien pourrait bien le laisser envisager. Pourtant, Julien Froment, vous pouvez nous dire ce matin que les dirigeants parisiens ne comptent pas le laisser filer.
Oui, c'est le directeur sportif Leonardo qui a décidé de prendre la parole. C'est très court, concis et dit dans un grand sourire.
Bon, je vous dis, Pochettino, il y a 2 ans de contrat avec nous et on est très contents.
La réponse semble limpide, mais Leonardo laisse quand même la porte entrouverte. Il y a en fait 2 options. Alors oui, le Paris Saint-Germain compte vraiment sur Mauricio Pochettino. Mais si l'Argentin veut partir, il devra démissionner, faire une croix sur ses 2 années de contrat, soit un peu plus de 13 millions d'euros. 2e option, les clubs intéressés, on parle du Real Madrid et de son ancien club Tottenham. Je peux vous confirmer que le club anglais l'a bel et bien contacté. Eh bien, ces 2 clubs devront payer une indemnité de transfert, comme pour un joueur. En attendant, le premier intéressé, Mauricio Pochettino, se mue depuis l'apparition de ces rumeurs dans un silence assourdissant.
Les précisions de Julien Froment pour Europe 1. Le PSG par ailleurs tout proche de gagner un titre supplémentaire. Hier, les filles du club ont fait match nul face à Lyon et ne sont qu'à un match de mettre fin à l'hégémonie des Lyonnaises qui dure depuis déjà 14 ans.
Le foot, c'est aussi l'équipe de France qui continue sa préparation avec un groupe désormais au complet.
L'arrivée des 3 champions d'Europe de Chelsea, c'est pour aujourd'hui Kanté, Giroud et Zouma. Hier, c'est Karim Benzema qui est venu en conférence de presse. Ça n'était plus arrivé depuis 5 ans et nous l'entendrons d'ici 1 heure. Et puis on l'apprend ce matin, la Copa América ne se jouera pas en Argentine à cause de la pandémie. On ne sait pas encore qui accueillera la compétition dans 2 semaines.
On en vient à l'autre grande actualité sportive, c'est bien entendu Roland Garros qui a débuté hier.
Avec Enzo Cuoco, invité sur le tournoi et qualifié pour le 2e tour. C'est d'ailleurs le seul rescapé français de la journée. Mais pas de regret pour Gilles Simon qui, malgré la défaite, a repris du plaisir à jouer. Ça n'était pas arrivé depuis longtemps.
Ça fait très longtemps que je n'ai pas joué aussi bien. Enfin, que je ne me suis pas senti aussi bien sur le terrain, que je me sentais... Voilà, c'est pour ça qu'en fait, je ne suis pas frustré du tout. Ce n'est pas le mot, je suis déçu. Je suis déçu d'avoir perdu. Vraiment, il y avait des très bonnes séquences de jeu et où bah, forcément, je reprends beaucoup de plaisir à jouer malgré l'événement, alors que normalement, c'est plus dur ici. Ah, tu as la déception de tomber sur un adversaire qui a fait encore mieux que toi. Juste un grand bravo à lui pour ce match. Et tant pis pour moi.
Gilles Simon avec Marie Guida pour Europe 1 à suivre aujourd'hui Benoît Paire ou encore Joe Wilfried Tsonga et Caroline Garcia, voilà pour le tableau féminin.
Et le retour de Roger Federer aussi sur le court aujourd'hui. Et Europe 1, radio officielle de Roland Garros qui pose ses micros dans les gradins du court Philippe Châtrier dès 7h tout à l'heure, hein, je vous le rappelle. Mathieu Béliard sera en direct de Roland Garros avec tous ses invités et notamment Raphaël Nadal au micro d'Europe 1 ce matin.
On termine avec de la moto et Fabio Quartararo qui a remporté le Grand Prix d'Italie hier. Alors que Johan Zarco, autre Français, finit 4e. Les 2 tricolores occupent les 2 premières places du championnat du monde. Grand Prix d'Italie marqué par le décès d'un tout jeune pilote, le Suisse Jason Dupasquier, victime d'une lourde chute en qualification. Quartararo d'ailleurs lui a dédié sa victoire.
Merci à vous Lénaïque Meunier pour le journal des sports. A tout à l'heure. Et on va découvrir à présent le pari gagnant du jour. Bonjour Thierry Léger.
Bonjour Sébastien, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Marseille-Borély et mon pari gagnant sera le 804 Glorious Spirit. Revenu à un bon niveau de forme après avoir été absent durant toute l'année dernière, il reste sur 2 bonnes performances à Marseille le 7 mai puis à Vichy il y a 10 jours et il est assurément proche de renouer avec la victoire qu'il n'a pas connue depuis 3 ans. Visiblement sur la montante et n'ayant jamais déçu sur cet hippodrome, il mérite ici un très large crédit. Notez bien, pour cet après-midi à Marseille-Borély, réunion 1 dans la 8e course, le numéro 4, Glorious Spirit.
Merci à vous Thierry Léger, on vous retrouvera dans une 20aine de minutes pour les pronostics du Quintet. À tout à l'heure.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Il est presque 5h15 sur Europe 1, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Très bon réveil. Le 5-7 continue l'actualité ce matin. C'est cette traque encore toute la nuit en Dordogne. 300 gendarmes déployés autour d'un périmètre de 4 km² de forêt où se trouve un homme de 29 ans, armé, déjà condamné 4 fois pour des violences conjugales sur son ex-compagne. À partir d'aujourd'hui, tous les plus de 18 ans peuvent recevoir le vaccin sans condition. 28 millions de personnes adultes sont éligibles et pas encore vaccinées. Les livraisons de doses à la France vont encore augmenter. Au mois de juin, 76 millions attendus. Et puis Carlos Ghosn doit être entendu aujourd'hui par une délégation de magistrats français spécialement venus à Beyrouth l'interroger dans les enquêtes qui le visent notamment pour abus de biens sociaux.
Europe 1.
Sandrine Roche et Martin Lange m'ont rejoint. C'est l'heure du pressing. Comme chaque jour, on lit la presse tous ensemble. On commence par un coup d'œil aux unes de vos journaux. Et cette question, pourra-t-on bientôt vivre sans masque? Question posée par le Figaro, qui a bien remarqué qu'aux États-Unis, ça y est, les visages se découvrent, en tout cas pour ceux des vaccinés. En France, Emmanuel Macron ne veut pas se précipiter, raconte le journal. Ambiance de révision dans la dépêche du midi. Dernière ligne droite avant un bac sous Covid. Deux semaines d'ici au grand oral très, très décrié. Cette nouvelle épreuve du bac, écrit le journal toulousain. Grand oral égale grande première, titre La Voix du Nord. Et puis il y a bien sûr dans vos journaux cette météo estivale, une chaleur bienvenue pour Varmatin qui en fait sa une, ce soleil attendu qui influe sur notre humeur et booste la consommation, surtout après l'un des mois de mai les plus pourris. On l'avait tous remarqué, eh bien Météo France le confirme, et c'est à lire dans le Dauphiné Libéré. La politique dans Libération, Provence, Alpes, Côte d'Alerte, titre Libé sur la progression du RN en région PACA. Et puis aujourd'hui en France, vous emmène dans l'intimité des Bleus, dans le secret de leur préparation pour l'Euro à Clairefontaine. Voici maintenant les trois histoires qui ont attiré notre attention dans les journaux ce matin. Omblin, on le disait, l'été arrive et avec lui les jobs d'été.
Oui, et la course est en train de s'accélérer. C'est Libération qui en parle ce matin. Des jeunes touchés par la crise sanitaire, beaucoup ont perdu leur emploi. Étudiants rencontrent des difficultés financières au quotidien et ce, depuis un an, avec des bourses qui ne suffisent plus à subvenir à leurs besoins. Problème, en face, les embauches se font au compte-gouttes. Il se trouve que les secteurs les plus touchés par la pandémie sont ceux qui proposaient le plus d'emplois, la restauration, oui, notamment en première ligne même. Mais voilà, l'activité met du temps à redémarrer. Les offres apparaissent progressivement. Paradoxalement, si on se remet doucement à recruter dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, ceux qui souhaitent embaucher ont du mal à trouver des volontaires. Eh bien, ça s'explique par le fait que les étudiants ont déserté les grandes villes lorsque les universités ont fermé. Ils ont quitté leur CTU. Ils sont retournés chez eux, dans leur famille, souvent dans des zones rurales où les jobs d'été se font plus rares. Donc, on a des étudiants et des possibles employeurs qui ont du mal à se retrouver, et parfois pour des raisons géographiques. Autre difficulté, les employeurs sont frileux. Ils ne se projettent plus vraiment. Et lorsqu'ils se décident à embaucher, ils proposent des jobs qualifiés, cherchent plutôt des professionnels. D'abord parce qu'au milieu de tous ces étudiants qui veulent travailler, eh bien, il faut choisir un profil. Alors autant opter pour celui qui n'est pas débutant. Ensuite, un débutant, il faut le former, ça demande du temps. Les patrons en manquent. Enfin, les employeurs ne sont pas forcément friands des va-et-vient au sein de leurs équipes. Ils cherchent aussi des employés stables et opérationnels. C'est pas trop ce qu'on appelle un job d'étudiant pour le coup.
Oui, et certains restaurateurs d'ailleurs n'ont pas encore fait revenir tout leur personnel qui, pour certains, sont encore au chômage partiel. Donc forcément,
ils ont du mal à recruter.
Ils n'en sont pas encore embauchés, forcément.
Non. Et l'été approche, le stress s'amplifie pour bon nombre de jeunes de moins de 25 ans, car de ces emplois saisonniers dépendent le financement de leur année scolaire. Sans job d'été, beaucoup pourraient être contraints de suspendre leurs études, faute de moyens pour se loger et se nourrir. Voilà, pour les étudiants, il n'y a plus de saison, c'est dans Libération.
Dans Libération, difficulté, hein. C'est décidément une année compliquée pour les étudiants et évidemment pour les restaurateurs. Tiens, voilà un autre sujet qui va les intéresser, les restaurateurs et plus largement les commerçants. Des centaines de milliers de patrons de restos, de boulangeries et de traiteurs attendent réparation. Deux actions judiciaires sont en cours de constitution pour attaquer les émetteurs des fameux titres restaurants. Vous les connaissez, les tickets resto, les chèques restaurants, les chèques déjeuner en fonction du groupe et de la marque qui est derrière ces titres distribué par les entreprises à 4 millions de salariés qui s'en servent pour payer leur repas ou parfois leurs courses. Ils sont quatre acteurs à se partager le marché, nous raconte Le Parisien aujourd'hui en France, à se partager et surtout à verrouiller le marché. C'est ce qu'a conclu l'autorité de la concurrence qui leur a infligé en 2019 une amende record de 415 millions d'euros pour pratiques anticoncurrentielles. En gros, ils se sont mis d'accord. Ce sont des ententes qui ont eu pour effet de maintenir des commissions très élevées pour les commerçants. Et c'est vrai que c'est assez effarant. Entre 3,5% et 7% de commission, en gros, facturée aux commerçants lorsque vous payez avec votre ticket resto ou chèque restaurant. Alors que quand vous payez par carte bancaire, c'est 0,2% ou 0,3%. Il y a même une marge énorme. Pour les restaurateurs, c'est un coût considérable. Et d'ailleurs, malgré l'amende de l'autorité de la concurrence, ces commissions n'ont pas baissé. Voilà ce que racontent les restaurateurs. D'où ces deux actions en justice, en préparation, avec des avocats qui tentent de rassembler un maximum de dossiers de commerçants demandant réparation. Ils en ont déjà des centaines. Ils espèrent en obtenir des milliers pour une première action collective de professionnels en France. Alors ça va prendre des années, c'est loin d'être fini. Et pendant ce temps, l'autorité de la concurrence a ouvert une quatrième enquête contre ces émetteurs de titres restaurants. Voilà, les commerçants qui demandent réparation dans Le Parisien aujourd'hui en France.
Et les commerçants ne sont pas forcés d'accepter ce mode de paiement, mais ils risquent, s'ils ne l'acceptent pas, de perdre des clients. Donc
là,
ils sont aussi coincés.
Oui, le midi, en général, ils n'acceptent que le midi.
Oui, que le midi, oui, exactement.
Mais effectivement, oui.
Donc ils peuvent ils sont coincés.
C'est notamment visiblement le cas de restaurateurs dans les secteurs d'affaires, dans les quartiers d'affaires,
oui,
comme la Défense,
qui ont déjà perdu beaucoup de clients, en plus
d'avoir perdu beaucoup de clients pendant des années, ont payé ces commissions avec parfois des paiements par ticket resto qui représentent les deux tiers de leur chiffre d'affaires.
Ah
donc
oui,
c'est colossal.
Donc ils perdent énormément d'argent.
C'est colossal. Martin, on va terminer avec vous, et alors avec une conséquence plutôt inattendue de la pandémie.
Tout à fait, l'explosion du nombre de liftings brésiliens. Alors qu'est-ce qu'un lifting brésilien, Sébastien ? C'est un lifting des...
Je suis très curieux de savoir.
Alors, je connais le pour les cheveux, mais je pense que c'est pas la même chose.
C'est notre ministre Marine, je sais pas qui adore.
Ah oui,
c'est
le lissage.
Ça c'est le lissage.
Le lissage brésilien, exactement. Alors le lifting, le lifting brésilien, non c'est pas les cheveux, c'est un lifting des fesses avec une technique qui consiste à prélever de la graisse sur les parties du corps qui en ont et à la réinjecter dans votre postérieur pour le rendre plus bombé. Les cabinets de chirurgie esthétique qui pratiquent cette chirurgie ne désemplissent pas. Slate cite par exemple ce chirurgien californien en cas rendez-vous disponible avant un an. Si le phénomène est très développé aux États-Unis, il arrive aussi chez nous en France.
Sacré pub avec Kim Kardashian d'ailleurs.
Exactement. C'est aussi la mode de les réseaux sociaux.
Tout à fait.
Quel est le rapport avec la pandémie ?
Alors, il y a plusieurs liens. On vous avait parlé sur Europe 1 il y a quelques semaines du boom de la chirurgie esthétique dans son ensemble, notamment à cause ou grâce au télétravail. Parce qu'avec la visio, beaucoup se sont découverts des défauts à force de se regarder toute la journée. Et puis le distanciel, ça permet aussi de passer sa convalescence chez soi, tout en continuant à travailler. Alors ça n'explique pas l'intérêt soudain pour la chirurgie des fesses. C'est vrai, pour ça, les médecins évoquent d'abord un changement de mentalité. Beaucoup de patients interrogés disent y penser depuis longtemps et puis avoir eu du mal à assumer aussi. La pandémie aurait donc servi de catalyseur. Autre raison avancée par Slate, des nouvelles applis qui permettent en deux clics de tester sur soi de nouvelles fesses. Par exemple, les fesses de Kim Kardashian ou des stars de
tester sur soi de nouvelles fesses.
Voilà, vraiment,
on a un progrès.
Ouais, c'est ça. Quel progrès. Enfin, dernière explication, les économies faites à l'heure du Covid. Et oui, ça paraît étonnant alors qu'on parle de crise depuis maintenant plus d'un an. Mais tout le monde ne l'a pas vécu de la même façon. Aux États-Unis, par exemple, si le chômage et la précarité ont explosé en bas de l'échelle, les classes moyennes et supérieures ont-elles mis de l'argent de côté ? Et oui, plus de restos, plus de voyages. Et c'est cet argent qui est aujourd'hui réinvesti dans la chirurgie esthétique. Le boom du lifting brésilien, effet inattendu de la pandémie, c'est à lire sur le site de Slate.
Il va y avoir des changements de look inattendus, je pense. Il y a des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps.
Non, on va les reconnaître.
On va peut-être pas les reconnaître. La dernière fois qu'on a perdu Mathieu Béliard pendant un confinement, il est revenu. Il y a eu une différence. Donc, il y aura d'autres cas, c'est certain. Merci à tous les deux. Rideau sur le pressing, 5h23.
Sébastien Krebs vous informe sur Europe 1.
Et c'est l'heure des doigts dans l'assiette sur Europe 1. Nous sommes dans l'Aube. Bonjour Baptiste Gatouya.
Bonjour Sébastien.
Vous êtes notre agriculteur près de Troyes, à Diray-Saint-Pierre. Comment allez-vous ce matin ?
Écoutez, ça va très bien.
Bien réveillé, vous avez bien profité du soleil ce week-end ?
Oui, très bien. Ça fait du bien de revoir un petit peu le soleil aussi pour nous, pour les cultures. Donc, vraiment très, très bien.
Oui, alors vous aviez besoin de pluie quand même. Vous aviez besoin de pluie ces derniers temps. Vous l'avez bien eu, la pluie, là, au mois de mai. Hein.
Oui,
suffisamment.
C'est bien. C'est un bon temps qu'on a eu. Ça a permis de recharger un petit peu les sols en humidité. Donc, là, c'est bien. Puis là, maintenant, on commence à avoir un petit peu de chaleur parce qu'il y avait quand même aussi besoin de chaleur. On a toujours besoin d'un petit peu d'eau et d'un petit peu de chaleur.
Bon, voilà, l'alternance de la météo. Qu'est-ce qui vous occupe justement avec ce retour des beaux jours sur l'exploitation ?
Écoutez, là, on a attaqué, on a fini la semaine dernière les fertilisations sur les blés. Donc, on a mis de l'engrais, dernier tour d'engrais sur nos cultures de blé, donc pour pouvoir continuer à faire pousser les plantes et surtout avoir un bon taux de protéines dans les cultures de blé, ce qui nous permet de pouvoir avoir des farines de qualité pour le pain. Mmh. Voilà, donc c'est important.
On rappelle ce que vous cultivez. Il y a du blé, mais pas seulement. Hein.
Voilà, oui, il y a aussi des betteraves. Donc, sur les betteraves, en ce moment, on est en train de... Là, comme elles ont passé l'épisode de gel, la pluie leur a fait du bien, la chaleur commence aussi a des bons effets. Donc ce qu'on fait, c'est qu'il y a l'herbe aussi qui pousse. Et pour essayer de se passer des produits phytosanitaires, on est en train de l'ébiner. Ça veut dire qu'on passe comme si on passait la pioche, mais c'est une machine qui le fait. Nous, on a juste à être sur le tracteur et à bien pouvoir suivre les rangs pour que la machine elle coupe l'herbe derrière et elle remue la terre en même temps. Donc voilà, c'est comme si on piochait les betteraves, mais avec une grande machine.
Et donc, vous dites pour éviter les produits phytosanitaires. Alors, vous n'êtes pas en bio, mais vous avez quand même cette démarche d'éviter ces produits au maximum.
Oui, on essaye. Ouais. Voilà, c'est ça qui est important. Donc là, ça nous permet d'économiser un passage de désherbant. Donc, en règle générale, on va dire en temps normal, sans passage mécanique, on est à 4 voire 5 les mêmes années où il y a beaucoup beaucoup d'herbes où les conditions climatiques sont défavorables. Là, on va arriver pour le moment à être à 3. L'objectif de cette année était d'être à 2, mais avec les conditions climatiques qu'on a eues, on n'a pas réussi à passer que de produits phytosanitaires.
Voilà, là, pour cette démarche d'agriculture raisonnée, hein, c'est ça, on n'est pas dans le bio, mais dans une démarche d'agriculture raisonnée pour éviter ces produits.
C'est ça, oui. Oui, non, puis on a aussi fini les semis des jachères apicoles. Donc, c'est-à-dire qu'on a réservé une partie de nos terres pour faire des bandes de jachères qui vont servir à nourrir les abeilles. Donc voilà, ça nous permet aussi de participer au développement de la biodiversité.
Bon, ça fait beaucoup de travail tout ça sur vos parcelles avec ce retour des beaux jours. Bon courage Baptiste Gatouya, à bientôt.
Merci Sébastien, bon courage à vous.
À bientôt dans les doigts dans l'assiette. Il est 5h27 sur Europe 1.
Sober, my temperature's a little colder. I see it clearly now, only fair for you. 'Cause I was young, dumb, and broken. I ain't being sober, my hands are shaking and the nights are lonely. I put my body and my soul through hell for you. Why does it hurt that it's all? I've been drunk for 3 and 15 days. Pop that perfume.
Sober sur Europe 1, c'est le dernier single de Kimber Rose, sorti il y a tout juste quelques jours. Il est 5h29, on va retrouver Laurent Cabrol avec une météo qui reste très belle, Laurent.
Oui, le soleil est là et il sera là tout au long de la journée. C'est un soleil rayonnant avec des petits vents d'est qui est autour de 40 km/h qui vont rafraîchir un petit peu l'atmosphère, ce sera pas plus mal. Mais nous avons une zone orageuse. Alors ces orages se manifestent ce matin sous forme de cumulonimbus sur l'arrière-pays méditerranéen. Progressivement, ils vont gagner dans la journée les Cévennes, la vallée du Rhône, la région Rhône-Alpes, la Corse. et même le massif des Pyrénées. Donc ces orages seront conjugués avec des averses assez violentes. Soyez particulièrement vigilants. Les températures seront des températures chaudes, bien sûr, dans la journée, des températures estivales. 22 degrés à Nice, à Metz et à Caen, 23 degrés du côté de Troyes, de Rodez, 25 à Bourges, 25 à Paris, 27 à Lyon. Oui, c'était 27 degrés cet après-midi, c'est quand même bien, comme à Limoges, 28 à Toulouse, 29 à Angoulême et 30 degrés à Bordeaux et à Cahors.
Encore voilà. De la chaleur. À tout à l'heure, Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Vous êtes sur Europe 1, le 5-7 continue avec un nouveau journal. Bonjour Marion Calais.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
5h30.
Mesdames et messieurs, votre énergie est un immense soutien pour les joueurs. Malheureusement, en raison du couvre-feu, les portes du stade vont fermer dans quelques minutes. Nous vous remercions de bien vouloir vous diriger vers la sortie.
Un match pas terminé, mais un stade qu'il faut quitter, en tout cas pour le public. La vie à Roland-Garros sous couvre-feu. Reportage dès le début de ce journal. À suivre aussi la traque, toujours en Dordogne, sur les traces d'un ancien militaire violent. La NSA qui écoute ses alliés et Karim Benzema qui remercie Didier Deschamps pour son retour en bleu.
Après le journal, quel premier bilan pour les restaurateurs depuis la réouverture des terrasses, le retour du soleil, des clients aussi, les jauges parfois difficiles à respecter et les aides d'État qui vont progressivement disparaître. Nous en parlons dans 10 minutes avec un restaurateur du Finistère, Hubert Jean du syndicat UMIH. Bienvenue à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Après l'heure, c'est plus l'heure. Et pour les spectateurs de Roland-Garros, comme pour l'ensemble des Français, match ou pas, à 21h, il faut avoir quitté les lieux.
Eh oui, c'est du Roland-Garros à l'heure du couvre-feu. Reportage de Johanna Chabas pour Europe 1.
Un public en feu pour soutenir Corentin Moutet. Les slogans et les applaudissements résonnent dans tout le court lorsqu'un peu avant 20h45, entre deux sets, un message est diffusé par les haut-parleurs.
Mesdames et messieurs, votre énergie est un immense soutien pour les joueurs. Malheureusement, en raison du couvre-feu, les portes du stade vont fermer dans quelques minutes. Nous vous remercions de bien vouloir vous diriger vers la sortie. La fin du match se déroulera à huis clos.
Le public proteste, mais quitte rapidement les gradins. Le match reprend quelques secondes plus tard. François et Nassim vont continuer à suivre la rencontre sur leur téléphone, mais ils sont déçus de ne pas voir la fin en vrai.
Assez frustré, surtout que là on avait un beau match de 7-1, et c'est vrai qu'on aurait aimé le continuer à le soutenir jusqu'au bout.
Bon, on est surtout déçus pour lui, parce qu'il n'aura plus notre énergie, nos encouragements. On espère qu'on a tellement crié, qu'il s'en est imprégné, qu'il va l'utiliser jusqu'à la fin du match. Là.
Malheureusement, les encouragements du début n'auront pas suffi. Après un peu plus d'une heure de jeu à huis clos, Corentin Moutet s'incline en 4-7 face aux joueurs serbes.
Et d'ailleurs, les Français n'ont pas brillé hier. Hein. 8 éliminations, une qualification, surprise d'ailleurs, celle d'Enzo Cuoco, 177e joueur mondial. C'est seulement la deuxième fois qu'il participe à un tournoi du circuit ATP.
Et Europe 1, vous le savez, est la radio officielle de Roland-Garros. Europe 1 pose ses micros sur le court Philippe Châtrier. Aujourd'hui, tout à l'heure, dès 7h, vous retrouverez Mathieu Béliard pour une matinale en direct du court central de Roland-Garros.
Un homme retranché, un village confiné et un important dispositif de recherche. Comme dans les Cévennes, il y a deux semaines, chasse à l'homme en Dordogne, au Lardin-Saint-Lazare, près de Sarlat. Un ancien militaire présenté comme dangereux et armé s'est retranché dans une forêt après s'en être pris à des gendarmes et aux nouveaux compagnons de son ex-femme. L'homme était déjà connu de la police et de la justice, comme l'a expliqué hier la procureure de Périgueux, Solène Bellawar.
Il s'agit donc d'un homme qui est âgé de 29 ans. Il a été condamné à 4 reprises par le passé, par la justice. 4 fois pour des violences qu'on appelle conjugales, des violences commises sur conjoint. Au préjudice de la même victime, son ex-compagne avec laquelle il a eu 3 enfants. Dans le cadre de ces faits-là, de violations de domicile et de violences aggravées sur conjoint également, a été prononcée une peine de 16 mois d'emprisonnement, dont 8 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans. Il a été décidé le 23 mars 2021 qu'il purgerait cette peine sous bracelet électronique. Et depuis, l'intéressé n'a pas fait parler de lui jusqu'au fait d'hier.
La procureure de Périgueux, Solène Bellawar, lui est soupçonné d'avoir organisé et financé à distance l'enlèvement de la petite Mia dans les Vosges mi-avril. Rémi Daillé, figure du mouvement complotiste, a été arrêté en Malaisie où il réside pour séjour irrégulier visé par un mandat d'arrêt international. Il pourrait être extradé vers la France.
Utiliser l'or noir pour financer un virage vert. Voilà la stratégie de Total en matière d'énergie.
Alors que l'Agence internationale de l'énergie avait plaidé pour la fin de toute exploration pétrolière et gazière dès cette année pour respecter les accords de Paris, Total, de son côté, prend un autre chemin. Il s'agira d'utiliser les ressources issues des énergies fossiles comme base de financement de la transition. Une transition marquée par un changement de nom pour le groupe. Total devient Total Énergie avec un S. Emmanuel Duteil.
Alors, c'est peut-être un détail pour vous, hein, mais pour eux, ça veut dire beaucoup. Total s'est engagé à la neutralité carbone en 2050 au plus tard. Alors on peut se dire, ça va, il se donne du temps, c'est sûr. Mais les défis sont colossaux pour y arriver. Il faut déjà commencer par limiter ou compenser les émissions de gaz à effet de serre sur des activités très polluantes comme l'extraction de pétrole. Et puis surtout, il faut investir à tour de bras dans des activités moins polluantes comme l'électricité renouvelable et le gaz. Sur les 10 ans qui viennent, Total Énergie va investir chaque année 3 milliards d'euros dans les énergies renouvelables. Selon le groupe, aucune autre entreprise en France et en Europe ne fera autant. Dans tous les cas, toutes ces entreprises sont contraintes de se réinventer. Ces entreprises sont de plus en plus poussées par leurs actionnaires, par les marchés financiers, qui estiment que ce virage plus vert peut aussi être plus rentable. Pour avoir tardé à entendre ce message, Exxon et Chevron, les deux mastodontes américains, viennent de se faire rappeler à l'ordre par leurs actionnaires.
Emmanuel Duteil, est noté que le patron de Total, Patrick Pouyanné, est l'invité de Sonia Mabrouk ce matin à 8h15. Il est 5h36 sur Europe 1. 25 millions de vaccinés. Et une nouvelle étape ce lundi en France. Désormais, les injections sont ouvertes à tous, à tous les plus de 18 ans.
Oui, officialisation d'une pratique déjà largement répandue avant peut-être une ouverture aux adolescents. Les autorités sanitaires européennes ont ouvert la voie. La Haute Autorité de Santé doit se prononcer cette semaine.
La France qui, par ailleurs, à partir d'aujourd'hui, impose aux patients passagers venant du Royaume-Uni, une quarantaine obligatoire d'une semaine à leur arrivée sur le territoire français.
Motif impérieux de déplacement également demandé aux étrangers non résidents. Précaution face au variant indien qui sévit outre-Manche, mesure diversement accueillie par ces Britanniques.
Je suis dévastée de ne pas pouvoir venir à Paris, ville que j'adore, c'est mon endroit préféré sur Terre. Je n'y suis pas allée depuis plus d'un an, alors j'espère y retourner dès que j'en aurai le droit. Je suis vaccinée et prête à partir.
C'est très frustrant de ne pas pouvoir entrer en France, vu que j'ai vécu là-bas pendant presque 8 ans. J'ai de la famille et des amis là-bas. J'ai aussi des clients français, donc je vais essayer de utiliser ça comme raison pour pouvoir entrer, soit par Londres ou soit par Dublin.
L'une des choses qui m'a le plus manqué depuis le confinement à Londres, ce sont mes voyages réguliers à Paris pendant 3 ou 4 jours, pour le plaisir, sans raison essentielle. Je suis tellement en colère qu'ici, au Royaume-Uni, nous ayons un gouvernement si incompétent que la France a jugé nécessaire d'interdire tous les voyages non essentiels depuis le Royaume-Uni.
Parole de Britannique recueillie par Laure Van Ruynbeek pour Europe 1 et avant le sommet du G7, le mois prochain, le Premier ministre britannique Boris Johnson a plaidé hier pour un accord sur les passeports vaccinaux.
Une agence décidément aux très grandes oreilles, la NSA, de nouveau accusée d'avoir espionné certains de ses alliés.
Oui, par le biais des systèmes de surveillance danois, c'est ce que révèle une enquête de la télévision publique danoise. Et on vous retrouve en direct de Washington, Sonia Dridi pour Europe 1.
Oui, la NSA a utilisé les systèmes danois d'écoute de câbles sous-marins de télécommunication pour espionner des hauts responsables européens de 2012 à 2014. C'est ce que révèle une enquête de la télévision publique danoise à laquelle le journal Le Monde et d'autres médias européens ont participé. L'agence américaine de renseignement a bénéficié de la collaboration des services de renseignement militaire danois. La ministre danoise de la Défense a été informée de cette affaire en août 2020. Elle a déclaré que l'espionnage systématique par des alliés était inacceptable. Lorsque le gouvernement danois a réalisé l'ampleur de la collaboration, il a réclamé la démission des responsables du service de renseignement militaire. La chancelière allemande Angela Merkel ainsi que plusieurs hauts fonctionnaires français, allemands, norvégiens et suédois ont été espionnés par l'agence américaine. En 2013, Edward Snowden, ex-employé de la NSA, avait révélé que l'agence américaine avait proposé à plusieurs pays son savoir-faire pour mettre en place des installations d'écoute. Elle s'en servait ensuite pour intercepter des communications. La NSA a pu accéder aux SMS, aux appels téléphoniques ou encore aux recherches Internet des personnes espionnées.
Sonia Dridi, en direct de Washington pour Europe 1.
Enfin, les premiers mots de Karim Benzema hier face à la presse à Clairefontaine. Une première pour l'attaquant depuis plus de 5 ans.
Et vous avez suivi cette conférence de presse pour Europe 1, Jean-François Pérez, avec d'abord un message de Karim Benzema pour Zinedine Zidane, qu'il a entraîné au Real Madrid. Mais l'international est aussi allé un peu plus loin, Jean-François.
Oui, la star a enfin fondu l'armure quand nous lui avons demandé, après un vibrant hommage à Zinedine Zidane, s'il n'avait pas envie de remercier aussi Didier Deschamps de l'avoir rappelé en équipe de France, ce qu'il n'avait jamais fait en public.
Vous voulez que je le dise ici ? Merci, merci Didier. Non, mais on a eu déjà une discussion, ça a été dit. Je suis là et je suis super content.
Et Benzema de quitter l'assistance, tout sourire au terme de 25 minutes de questions-réponses riches, pleines de messages. Et là encore, deux mots qu'il n'avait jamais prononcés, comme quand il évoque les conséquences de l'affaire de la sextape en 2015 pour Deschamps, Valbuena et sa propre carrière en bleu.
Il y a toujours des regrets, il y a toujours beaucoup de choses en fait. Mais on ne peut pas faire marche arrière. Après, le plus important pour moi, c'est ce qui se passe sur le terrain de foot.
Meilleur joueur du Real Madrid cette saison, au sommet de son art, à bientôt 34 ans, Karim Benzema ne revendique aucun statut, mais son retour est tout sauf anodin. Didier Deschamps le sait, avec Griezmann, Mbappé ou encore Pogba, la bonne gestion des égos sera l'une des clés du succès des Bleus à l'Euro.
Une précision signée Jean-François Pérez pour Europe 1.
C'était le journal de Marion Calais, il est 6h20 sur Europe 1. Et on retrouve Thierry Léger pour les pronostics du Quintet.
C'est sur l'hippodrome de Marseille-Borély que se disputera ce Quintet, un handicap qui réunira 16 chevaux âgés de 4 à 7 ans avec un favori solide, Dragonnet, le numéro 8, qui reste sur une probante 4e place, obtenue dans un Quintet le 1er mai à Saint-Cloud face à une opposition certainement plus relevée que celle de cet après-midi. De plus, il aura l'avantage, cette fois dévolu à domicile, et il devrait donc pouvoir justifier la confiance sans réserve affichée par son entraîneur Charles Rossi. L'opposition sera constituée des numéros 1 Wookie, 4e l'hiver dernier d'un quintet similaire à Cagnes-sur-Mer, 4 Electron Libre, très expérimenté, ayant déjà disputé pas moins de 18 quintets, et 7 Carter & Go de retour à Marseille après un séjour en Corse. Enfin les numéros 10 Silver Schnock, 9 Poets Black, 11 Blue Wheels et 5 Cœur Masséen compléteront ma sélection. Mon pronostic, 8, As, 4, 7, 10, 9, 11 et 5.
Merci à vous Thierry Léger et on retrouve tous vos pronostics sur europe1.fr.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
5h42, les terrasses étaient bien remplies ce week-end à la faveur de ce temps estival qui s'est enfin installé. Et je salue mon premier invité ce matin. Bonjour Hubert Jean.
Bonjour.
Vous tenez le bistrot chez Hubert, c'est à Fouesnant, dans le Finistère, et vous présidez la branche restauration de l'UMI, le syndicat qui représente les métiers de l'hôtellerie. Quel est le bilan du week-end pour vous ?
Bah écoutez, déjà, les choses sont un tout petit peu différentes par rapport aux ouvertures de la semaine précédente, parce qu'on a un climat qui est plutôt favorable. Maintenant, l'économie, bon, elle est ce qu'elle est, parce qu'on n'est pas en condition optimale pour mettre nos entreprises en mesure. Faudra véritablement attendre le 9 juin afin de pouvoir mesurer exactement et précisément ce qu'on peut faire.
Aujourd'hui, vous n'avez ouvert que la terrasse, bien sûr, avec cette jauge à 50% que vous respectez strictement, parce qu'on voit quand même beaucoup de restos qui ont du mal à la respecter. Hein.
Oui, écoutez, je pense que ça va mieux cette semaine quand même, hein, parce que les administrations préfectorales des différents départements dont j'ai été en contact, les choses se sont calmées un petit peu, parce que bon, je crois que les professionnels, ils ont été un tout petit peu débordés le premier mercredi, voire le deuxième jour, puis après les choses rendent dans l'ordre. Moi, je sais que sur mon département, le Finistère, on a zéro amende, donc tout va pour le mieux.
Mais est-ce qu'il y a vraiment des contrôles ?
Oui, il y a des contrôles, mais bon, il faut juste que les choses prennent du sens un peu, et puis que c'est le bon sens qui doit prévaloir, en fait.
Oui, voilà. Après, on peut le comprendre, et on le voit notamment dans les grandes villes et à Paris, il y a beaucoup de monde, les terrasses se remplissent bien, avec une certaine distanciation, enfin plus ou moins selon les lieux quand même. Mais on peut comprendre que tout le monde ait envie de s'installer dehors par ce temps.
Ben, c'est évident. D'abord, les conditions climatiques s'y prêtent aisément. Maintenant, comme je vous dis, hein, on va trouver quelque chose d'à peu près cohérent, sûrement à partir du 9 juin, parce que là, pour le moment, bon, c'est un peu du bricolage quand même. Faut dire les choses telles qu'on peut le dire.
Vous faites de la restauration ou uniquement des boissons ?
Alors, moi, je suis restaurateur, je fais revenir mes équipes. J'avais 10 salariés au chômage partiel, ils rentrent mercredi prochain, là. Voilà.
D'accord.
On va mettre l'outil d'équerre, on va se mettre un peu en place, définir ce qu'on fait à manger, Et puis on va faire un petit galop d'essai sur les déjeuners de vendredi, samedi, dimanche prochain.
D'accord, mais pour l'instant vous n'avez pas rouvert encore la partie restauration.
Non, mais notre terrasse elle est déjà bien pleine avec le bar, donc les gens viennent nous voir. En fait, ils retrouvent une certaine émotion, les clients.
Et ça fait du bien, j'imagine, au moral de revoir cette animation sur les terrasses. Ça fait du bien à tout le monde, d'ailleurs.
Oui, ça fait du bien parce qu'il y a de l'émotion dans les yeux des gens qui viennent nous voir. Et nous aussi, on est émus parce que imaginez quand même que là, ça fait plusieurs mois, 7 mois maintenant qu'on les a pas vus. On les a quittés en catastrophe fin octobre. On les retrouve maintenant, donc c'est bien de reprendre du lien, quoi, vraiment.
En termes de chiffres, vous vous y retrouvez quand même ?
Oh, écoutez, c'est pas tout à fait un modèle économique, hein. Il faut juste qu'on remette les choses un tout petit peu en route, que l'entreprise, et puis on va retrouver véritablement, je vous dis, parce que le couvre-feu à 21h, ça permet pas beaucoup de faire de la restauration le soir, c'est pas gagné. Il y en a qui le font, maintenant, faire venir les gens manger à 18h, c'est pas gagné, quoi, quand même, voilà.
Et du coup, vous avez maintenu, vous le disiez, vos salariés au chômage partiel en attendant de pouvoir avancer. Il y a même des restaurants qui ont choisi de ne pas rouvrir à partir du 19 mai, qui attendent justement cette date du 9 juin.
Ils sont nombreux au sein de votre syndicat, l'UMI, à avoir fait ce choix de ne pas rouvrir?
Ouais. Oui, en France, on en a beaucoup. Maintenant, déjà, il y en a beaucoup qui n'ont pas de terrasse, hein, donc faut dire les choses telles qu'elles sont. Bon, on imagine qu'il y a à peu près 40% qui ont des terrasses, hein, et donc ça veut dire qu'il y a 60% qui n'en ont pas. Donc c'est pas forcément un modèle, quoi. Donc voilà.
Ça n'était pas rentable en l'état de rouvrir pour certains établissements, on le comprend.
Oui, bien sûr. Alors après, il y en a qui ont voulu le faire et c'est très bien, quoi. Parce qu'au moins, ils retrouvent des clients, les clients, ils trouvent à manger. Donc c'est ça qui est important.
S'agissant des aides de l'État, elles vont progressivement diminuer tout au long de l'été. Quel regard vous portez là-dessus? Ça a été l'objet d'une négociation entre les représentants des restaurateurs et Bercy. Ce qui a été proposé vous convient ou vous allez pouvoir tenir malgré tout, même si ces aides diminuent?
Oui, alors, bon, écoutez, la période, elle sera plutôt favorable. Alors, pour les gens, plutôt sur le territoire national, hormis les saisonniers de montagne, mais sur l'ensemble du territoire, on va retrouver des clients tout de suite à l'ouverture. On a quand même un exemple, puisqu'on a en mémoire le 5 juin l'année dernière, quand on avait rouvert, c'était la pleine bourre, quoi. Donc ça marchait plutôt bien. Là, il y avait eu que 2 mois et demi de fermeture, et là, on va rouvrir au bout de 7 mois. Donc on est à peu près persuadé que les clients seront là.
Que l'été sera bon.
Et que l'été sera bon. Ouais. Alors, il y a des inquiétudes quand même, parce que les clientèles étrangères... Quant à leur déplacement, c'est pas tout à fait gagné encore, hein. Donc voilà. Donc mais si l'été dernier, on était déjà sur beaucoup de clientèle française par rapport aux étrangers. Donc on espère qu'on va retrouver ce modèle-là au moins cette année.
Avec des aides qui finiraient par disparaître au mois de septembre si ce scénario se confirme et que évidemment la crise aussi disparaît avec. Vous avez chiffré l'impact sur votre secteur de toute cette crise en termes de faillite, puisque certains restaurants peut-être ne rouvriront pas.
On sait précisément où surviendront les problèmes, hein. Donc aujourd'hui, il y a 10 jours, les parlementaires ont voté la loi qui permet aux bailleurs d'agir que 2 mois après l'ouverture des restaurants, après une fermeture administrative. Donc ça veut dire que on imagine à fin août, les bailleurs, pour le coup, où les loyers n'ont pas été payés, ils viendront agir et c'est là que les problèmes vont largement se subvenir.
Merci à vous. Écoutez, on vous souhaite une belle réouverture et un bel été. Merci à vous, Hubert Jean, d'avoir été ce matin sur Europe 1. Je rappelle le nom de votre bistrot, c'est chez Hubert, c'est à Fouesnant, dans le Finistère. Et vous présidez la branche restauration de l'UMI. Merci à vous, bonne journée.
Merci à vous, bonne journée.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Il est 5h48 sur Europe 1. L'actualité ce matin, ce sont ces 300 gendarmes déployés, 4 hélicoptères, mobilisation d'ampleur en Dordogne, près de Sarlat, pour tenter d'arrêter un ancien militaire âgé de 29 ans. Il s'est retranché dans une forêt après avoir agressé le compagnon de son ex-conjointe et avoir tiré sur des gendarmes. L'homme a déjà été condamné à 4 reprises pour violence conjugale et il avait bénéficié au mois de mars dernier d'une libération sous bracelet électronique. La vaccination ouverte dès aujourd'hui à tous les adultes adultes sans condition, hein, plus de critères d'âge ou d'état de santé pour pouvoir prendre rendez-vous. Et puis le début de la fin pour Benjamin Netanyahou, en tout cas son principal opposant, a reçu le soutien hier du représentant de la droite radicale pour la formation d'un gouvernement. Une telle coalition serait un danger pour la sécurité de l'État d'Israël, a réagi celui qui est encore Premier ministre aujourd'hui.
Écoutez Le Monde changer avec Sébastien Krebs sur Europe 1.
Et c'est l'heure de La France bouge. Avec vous, Lénaïque Monnier, nous mettons chaque matin en valeur de belles initiatives à travers la France. Où est-ce qu'on va ce matin ?
On va parler de mode ce matin, une mode très particulière qui s'intéresse aux personnes malades. Parce que les séances, par exemple, vous le savez, de chimiothérapie sont à la fois longues et éprouvantes et qu'il faut améliorer le confort et un semblant de morale pour les patients. C'est le cas de Catherine qui a eu un cancer des deux seins. Très vite, au gré des rendez-vous médicaux et des séances de chimio, et ben elle a vite mis une croix sur sa pudeur. C'est pas forcément évident de se déshabiller à longueur de journée durant les consultations. Même face à un personnel soignant évidemment très prévenant. Catherine en plus a subi 10 opérations chirurgicales et elle avait du mal à assumer un corps plein de cicatrices, d'où l'idée de ces pulls, des sweatshirts adaptés aux grands malades.
Des sweatshirts adaptés aux grands malades, comment ils se présentent ?
Alors en fait ça s'ouvre sur le devant, on déboutonne le plastron, on a des fermetures éclair un petit peu partout et des boutons pression, ça évite d'avoir à tirer ou à ôter ses vêtements intégralement. On trouve également des pulls dont les manches se retirent de la même façon, on peut avoir plusieurs niveau pour placer une perfusion, placer un cathéter, parce qu'on a froid également quand on est en chimio ou en dialyse et que la chemisette au gros de l'hiver pour pouvoir placer une perfusion, eh bien ce n'est pas indiqué, ce n'est pas réconfortant. Là, il suffit de retirer un tout petit morceau de tissu, comme un carré en fait que l'on déplace. Catherine a élaboré ses créations 100% coton et fibres de bambou, parce qu'en plus, comme ça c'est plus doux, les pulls sont très colorés, ils sont modernes en fait, il n'y a pratiquement pas de différence esthétique avec un sweat capuche classique.
Ouais, c'est de belles idées. Où est-ce qu'on peut se trouver ces créations ?
Alors sur un site internet qui s'appelle OptiSoins, Opti comme hôpital, les pulls coûtent 75€ et c'est donc une initiative qui rime avec praticité et dignité.
Voilà, l'initiative d'une femme qui elle-même a été touchée par
le cancer, par cancer du sein.
Cancer. Lénaïque Monnier pour La France bouge, merci, 5h51. Et on va aller regarder ce qui anime les réseaux sociaux ce matin avec vous, Martin Lange.
Oui, Sébastien, et ce matin, je vais vous parler du départ de Manuel Valls de Barcelone. Hein, l'ancien Premier ministre a annoncé la semaine dernière qu'il abandonnait son siège de conseiller municipal en Catalogne pour se consacrer à la France, se justifie-t-il. La parenthèse barcelonaise aura donc duré 2 ans et ne laissera probablement pas un souvenir impérissable aux Catalans, hein, comme en témoigne ce clip diffusé par la télévision publique en guise d'adieu.
Moi, je m'appelle Manuel Valls.
Bon, c'est du catalan, hein, mais vous l'avez reconnu, hein, moi je m'appelle Manuel Valls, hein, sur l'air de Moi Lolita de Mylène Farmer. On y voit un acteur imiter l'ancien Premier ministre, hein, il mélange les lieux, les spécialités locales. L'objectif, montrer sa méconnaissance supposée de la ville, hein, lui le parachuté selon ses adversaires. Une référence aussi à une série de tweets à son arrivée en Catalogne. L'ancien Premier ministre était affiché dans tous les hauts lieux touristiques de la ville, une véritable carte postale qui avait beaucoup fait rire ses opposants. Le clip étrille aussi son opportunisme ou encore son avidité supposée. On le voit avec des liasses de billets de banque plein les poches. Bref, les auteurs ne lui épargnent rien du tout.
Et on imagine que ça fait évidemment le buzz sur les réseaux sociaux.
Ah bah évidemment, hein, en France, en Espagne, dans toute l'Europe, hein, plus d'un million de vues en moins de 24 heures et des réactions comme celle de Niki. Hein. Manuel Valls a réussi à se faire détester dans toute l'Europe. Il a créé une vraie politique communautaire. Il est plus fort que le traité de Maastricht. Franchement, chapeau l'artiste. Ce sketch a aussi fait réagir le principal intéressé, hein, qui n'a pas du tout apprécié. Aucun commentaire, écrit-il, même si en bonhomme politique, hein, il ne peut pas s'empêcher d'en faire un. Ce programme est à l'image de cette chaîne, un véritable machine de propagande, unique en Europe au service de l'indépendantisme catalan. Ça fait beaucoup. Alors qu'il prépare son retour politique en France, hein, certains lui prêtent l'intention de prendre la tête du parti Territoire de Progrès, un parti qui veut dépasser les clivages partisans. L'ancien maire d'Evry se serait sûrement passé de cette mauvaise publicité.
Ah, et de ce cadeau d'adieu des Catalans.
Des Catalans. Ils ne l'ont pas raté, faut le dire.
Voilà, sur l'air de Moi Lolita de
D'Alizé. Oui, c'est vrai. Ah, c'est... Pardon.
Les réseaux sociaux explorés par Martin Veil, par Martin Lange chaque matin sur Europe 1, 5h53. Et l'histoire du jour, signée Christophe Ondelat, c'est celle du mort qui envoyait des SMS. L'enquête sur l'assassinat de Jean-Luc Thiébaut en 2014 en Haute-Savoie. Vous retrouverez Christophe Ondelat pour Ondelat raconte à 14h sur Europe 1 et dès maintenant sur Europe 1.fr en podcast.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Bonjour Fanny Agostini.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
À 5h54, notre planète avec vous, des solutions positives chaque matin. Et une innovation, tiens, ce matin, vous nous annoncez qu'une célèbre marque de chaussures va sortir un nouveau modèle en cuir. Mais alors, pas en cuir animal, mais du cuir végétal.
Oui, du cuir de champignon, tout à fait. Une innovation inspirée de la nature pour en finir avec la cruauté animale ou la fabrication du sky. Vous savez, ce faux cuir que l'on trouve partout, de nos sacs à main et vêtements en passant par les sièges de voitures et qui est issu de l'industrie pétrolière. Vous allez bientôt pouvoir marcher avec des champignons aux pieds car la célèbre marque à trois bandes va dans quelques mois sortir un nouveau modèle incorporant du mycélium.
Du mycélium, alors c'est pas tout à fait le champignon lui-même, hein. C'est quoi le mycélium ?
Eh bien, c'est un réseau de filaments qui joue le rôle de racines, de poumons et d'estomac du champignon. Il est maintenant possible de transformer ce mycélium en matière flexible, durable, imperméable et résistante, tout comme le cuir traditionnel, sauf que là, aucun animal n'a souffert pour donner sa peau.
Et d'ailleurs, vous observez que sa production est plutôt efficace, hein ?
Alors, la particularité du mycélium, qui lui donne tout son intérêt dans la fabrication du cuir, c'est sa vitesse de croissance. Il peut grandir de plusieurs centimètres par jour. On peut produire la même quantité de cuir en 2 semaines avec du mycélium contre 3 ans avec une vache. C'est le temps qu'il lui faut pour qu'elle atteigne sa taille adulte. En plus, ça ne prend pas d'espace. Quelques mètres cubes de terre suffisent à faire pousser des kilomètres de mycélium que l'on peut tisser de la manière que l'on souhaite pour créer des structures différentes. Des bracelets, des ceintures, des vêtements, des sacs, des semelles de chaussures et même des briques pour la construction.
Fanny Agostini, donc pour ce cuir végétal à base de mycélium, à base de champignons. Merci à vous Fanny Agostini, à demain.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs. Écoutez le monde changer.
Et bienvenue à vous tous sur Europe, hein, si vous nous rejoignez au réveil. J'espère que vous avez passé un excellent week-end sous ce soleil. Laurent Cabrol va nous dire dans un instant que la chaleur va continuer. Courage, c'est lundi 31 mai, il est presque 6h. Et Europe 1 est à l'heure de Roland Garros, radio officielle du tournoi. Europe 1 pose ses micros au bord du cours central, ce matin, dans une heure maintenant, on retrouvera Mathieu Béliard et toute l'équipe du 7-9 en direct depuis le cours Philippe Chatrier avec des invités très prestigieux sur le central ce matin. Raphaël Nadal au micro d'Europe 1, Gaël Monfils également. Rendez-vous à partir de 7h. D'ici là, votre 5-7 continue.
Cigarette ?
Non, merci, je ne fume pas.
Quel dommage, pourtant fumer des temps.
Je sais, j'enrage. Je n'ai pas fumé, Mathieu.
Vous avez reconnu OSS 117. Alors, y a-t-il trop de cigarettes dans les films, au cinéma, dans les séries ? C'est l'une des questions soulevées en cette journée mondiale sans tabac. Des cigarettes, il y en a dans 9 films sur 10 et en moyenne 3 minutes par film. Est-ce qu'on fume plus dans les films que dans la vraie vie ? Certains experts pointent une vitrine publicitaire pour les industriels du tabac.
Ça permet de faire de la publicité sans en avoir l'air et les marques de tabac sont régulièrement associées à des choses valorisantes.
On y reviendra à 6h30 et avec mon invité ce matin, le grand tabacologue et pneumologue, le professeur Bertrand Dotzenberg, tout à l'heure. Mon invité à 6h40. Et puis de la musique, toujours la partition d'Omblin Roche à venir. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alors c'est un groupe construit de toutes pièces, hein, mais qui a su révolutionner la pop des années 90 avec un certain génie marketing, hein, et des adolescentes qui s'identifiaient aux Spice Girls, que nous racontera donc Omblin Roche tout à l'heure à 6h20. Laurent Cabrol, la chaleur va donc continuer, hein.
Ben oui, elle va continuer, malheureusement, elle va continuer, mais sous les orages, hein, puisque les orages vont se multiplier au fil de la semaine. Là, je ne vous parle pas d'aujourd'hui, hein. Je vous parle de la semaine, et nous aurons une semaine orageuse, c'est-à-dire qu'à partir de demain, par exemple, les orages se seront déplacés, aujourd'hui il y en aura un petit peu, je vais vous le dire, ils se seront déplacés demain vers le sud-ouest, et puis mercredi, eh bien, ils vont rentrer, pénétrer dans la France, et ils vont gagner pratiquement tout le pays. C'est ça qui est... Bon, c'est un petit peu gênant, parce que ces orages vont gâcher l'atmosphère un petit peu. Alors les températures ce matin, 10 degrés à Clermont-Ferrand, 11 à Rouen, 12 à Lyon, à Rennes et en banlieue parisienne, 13 à Bourges, 14 à Lille, 15 à Marseille en ce moment, 16 degrés du côté de Paris, mais Paris intramuros, hein, au plus chaud de Paris, 16 à Toulouse et 18 degrés à Nice. et nous avons déjà quelques petits orages. Alors nous parlons, nous en avons repéré sur Nîmes, sur Montpellier, sur les cartes il y a des cumulonimbus vers Salon de Provence, vers Avignon. Vous voyez, c'est le delta du Rhône qui est essentiellement touché avec le Gard. Et nous aurons dans cette partie de France des orages ce matin. Ensuite, ces orages vont se déplacer et vont atteindre des régions comme les Cévennes, la vallée du Rhône, la région Rhône-Alpes et la Corse. Et nous privilégions bien sûr les montagnes dans ces régions puisque c'est là qu'ils éclateront avec le plus de vigueur. Voilà pour la zone orageuse qui donc concerne essentiellement aujourd'hui le sud-est. Partout ailleurs, c'est un grand ciel clair, un grand soleil. À Paris, bien sûr, pour Roland-Garros, où nous sommes aujourd'hui, c'est un temps vraiment idyllique qui s'annonce, avec 25 degrés dans l'après-midi, avec 12 degrés en ce moment. Enfin, voilà, des vents quand même, un petit peu de vent, allez, de 20 à 35 km/h. Mais enfin, dans le cours, on le ressent un peu moins. Et puis, des températures maximales pour la journée d'aujourd'hui, 23 degrés à Lille, 24 à Brest, 25 à Paris et Marseille, 26 à Rennes, 27 à Lyon, 28 à Toulouse, 29 à Bordeaux, et nous atteindrons 30 degrés dans les Landes et dans le Lot.
Ouais, vraiment des températures effectivement estivales. Merci à vous Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Allez, tout de suite votre journal sur Europe 1. Bonjour Sophie Echen.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.